Et au menu de notre club cet après-midi, des cuisses de grenouilles, de la sérendipité et des énigmes qui résistent encore à la science. Je vous présente mes invités dans un instant. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science aujourd'hui, la planète Jupiter comme on ne l'a jamais vue.
Oui, grâce à la sonde Juno de la NASA qui orbite depuis un an autour de la géante, les scientifiques publient aujourd'hui les premières données, des images magnifiques et quelques nouveautés. On en discute avec l'astrophysicien Olivier Mouzis.
Et c'est Souad Boukorsa qui réalise aujourd'hui l'émission qui a été préparée par Dylan.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Quiz de grenouille, énigme scientifique et sérendipité dans notre club dans un instant avec mes invités que je salue, Anne-Marie Oller, Aline Richard, Daniel Boursier et David Louapre. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Et
bonjour.
Bienvenue. Anne-Marie Oller, pourquoi faut-il se méfier des grenouilles dans nos assiettes, s'il vous plaît? Que se passe-t-il?
C'est qu'une grenouille cache une autre. Il y a plusieurs espèces de grenouilles qu'on peut manger ou qui sont mangées et on voulait savoir ce qui est dans les paquets qu'on trouve dans nos magasins.
Voilà, et ce n'est pas celle qu'on nous indique visiblement.
Non, hein. Apparemment
et
non.
La génétique nous aide à en savoir plus. Aline Richard, cet article justement paraît sur le site de The Conversation France. On va en parler avec vous dans un instant.
Absolument.
David Louapre, vous publiez le 31 mai chez Flammarion. Insoluble mais vrai, ce sont les énigmes qui résistent encore à la science. Il y en a beaucoup.
Ouais, il y en a un certain nombre et surtout il y en a quelques-unes qui sont particulièrement frappantes parce que ça fait très longtemps qu'elles résistent ou elles sont vraiment très importantes et pourtant les chercheurs continuent à se casser les dents dessus.
Ouais, et des questions toutes simples, hein, comment la vie est apparue par exemple.
Ouais, vaste question quand même.
D'où vient le basque ou la malédiction du vieillissement? On va en parler ensemble dans un instant. Daniel Boursier, ça s'appelle la sérendipité et vous en faites un livre. Quel est ce mot barbare qu'on commence à bien connaître quand même maintenant.
Oui, je pense qu'il est dans les dictionnaires depuis 2012. Donc ça va, mais quand même, quand vous parlez de sérendipité à des gens qui ne connaissent pas, ils ont envie de savoir. On ne voit pas l'origine du mot.
Ouais, 80 découvertes dues au hasard qui ont bouleversé le cours de l'histoire. Ben voilà, vous donnez la définition finalement dans le titre du livre. C'est le hasard et la science, on en parle dans un instant avec les auditeurs qui nous rejoignent sur le site de l'émission. On savait la planète Jupiter orageuse, et bien la sonde Juno nous la montre tempétueuse, des vortex gigantesques, des cyclones et des anticyclones. C'est une véritable météo de l'ammoniac que nous dévoilent les scientifiques de la NASA qui publient dans la revue Science le premier lot de données et d'analyses de la sonde Juno en orbite autour de la géante depuis juillet dernier. On fait le tour des nouveautés et des surprises et puis on va regarder les photos également avec vous, Olivier Mouzis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous, vous êtes professeur d'astrophysique à l'université d'Aix-Marseille. Et puis en studio avec nous, Philippe Hénarejos, le rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace. Bonjour Philippe.
Bonjour.
La première chose qui frappe dans ces publications, Olivier Mouzis, ce sont les images. Elles sont absolument bluffantes, hypnotisantes, avec des couleurs jamais vues. On les a mises d'ailleurs hein, sur le site de la Tête au Carré, Axel, hein, elles sont sur le Facebook.
Hein. Ah oui, on a fait un diaporama pour l'occasion. Et Olivier Mouzis, ce qu'on voulait vous demander en premier, c'est est-ce que ce sont les vraies couleurs de Jupiter qu'on voit sur ces images?
Alors, c'est une très bonne question. habituellement, les images que l'on montre grand public, on renforce beaucoup les structures, on met en valeur les détails. Donc, je ne pense pas que le rendu soit identique à celui que vous voyez dans les images. On a exagérément amélioré le contraste de l'image pour mettre en valeur les différentes structures. Mais en soi, c'est déjà c'est incroyable hein, de voir tous ces festons, ces petits vortex autour des pôles, de voir cette densité de détails, c'est quelque chose qui est quand même incroyable. Est-ce que l'œil humain percevrait ces détails si nous étions à l'emplacement de la sonde actuelle? Probablement non, parce que bon, l'éclairage n'est quand même pas optimum pour l'œil humain. Donc non, ça a été renforcé, les détails ont été renforcés, sans aucun doute.
Philippe Hénarejos, comment elles sont obtenues ces photos? Comment on les compose?
Alors, ce sont des photos qui sont obtenues par une caméra qui est sur la sonde de Juno. Il faut savoir que cette sonde, son objectif premier, c'est pas de prendre des photos. Donc, la caméra est pas vraiment une caméra scientifique. Mm-hmm. C'est une caméra pour prendre des photos, pour qu'on voit la planète, parce que la NASA ne va pas sur une planète sans prendre de photos.
Heureusement,
c'est un élément de communication important. Alors, il faut savoir que la sonde de Juno tourne autour de Jupiter selon une orbite qui est assez elliptique, c'est-à-dire que tous les 53 jours, elle passe très près de Jupiter. Et quand elle est très près, c'est là que elle fait ces fameuses photos où on voit beaucoup de détails. Mais seulement, le champ est très réduit puisqu'elle est très près. Donc, souvent, il y a beaucoup de travail aussi pour nous montrer des photos regardables. C'est-à-dire qu'elles sont mosaïquées, mises bout à bout, en quelque sorte, retravaillées, contrastées, etc. Donc, c'est comme ça qu'on obtient ces photos. Certaines des photos générales sont le fruit de plusieurs photos additionnées. Certaines non, qui sont prises un peu plus loin, par exemple, à partir du moment où on est à 50 000 km, ça commence à aller mieux.
Bon, elles sont belles, ces
photos. Mais Jupiter est énorme. Oui, elles sont très belles. Ouais.
Alors, Olivier Mouzis, c'est quand même la première fois qu'on voit les pôles de Jupiter. Est-ce que scientifiquement, voir ces pôles, ça a quand même un intérêt ?
Tout à fait. Donc, l'intérêt, c'est de mettre en évidence toutes ces structures, donc ces phénomènes cycloniques, anticycloniques, donc tous les vortex que l'on voit. On voit que la météorologie de Jupiter est extrêmement complexe, très compliquée. Et on voyait ces phénomènes, bien sûr, aux latitudes intermédiaires, à l'équateur, et on voit qu'il se passe autant de phénomènes analogues dans les couches, dans les latitudes supérieures. Donc, c'est une information qui est quand même relativement importante pour les astronomes. Les astronomes qui observent Jupiter depuis le sol ont l'habitude de voir la face de Jupiter. On voit de l'équateur aux latitudes nord ou sud, mais on ne voit pas tous ces détails dans les pôles. Même avec Hubble, c'est pas possible, c'est une question de géométrie. Et donc, avoir accès au pôle de Jupiter avec cette sonde, ça nous donne énormément d'informations sur la météorologie jovienne.
Alors, on parle d'une météo, de l'ammoniac. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Eh bien, en fait, vous savez, dans Jupiter, vous avez des bandes et des zones. Alors, les zones, elles sont blanches, elles sont plus froides. C'est l'ammoniac qui remonte en haut de Jupiter, en haut de l'atmosphère. Donc, quand vous voyez les zones blanches, en fait, c'est les zones qui sont plus hautes en altitude que les bandes. Et ces zones, c'est de l'ammoniac qui vient de l'intérieur et qui remonte. Et donc, ce sont des couches qui sont plus élevées et qui ont des couleurs plus blanches. Et les bandes que l'on voit, au contraire, ce sont des zones qui sont plus profondes et on voit donc des couleurs plus sombres. Donc les nuages qu'on voit essentiellement, c'est vrai que les plus hauts qu'on voit, ce sont ceux qui sont basés à partir de l'ammoniac.
Alors les phénomènes qu'on peut découvrir dans la publication sont vraiment très violents. Des cyclones qui tourbillonnent à 1400 km/h. On peut vraiment comparer la météo de Jupiter avec celle de la Terre ?
Eh bien, des collègues estimables qui travaillent sur la météorologie jovienne utilisent des modèles d'atmosphère terrestre qui ont été développés pour la Terre pour essayer de mieux comprendre les phénomènes joviens. Et c'est ce qu'on appelle la planétologie comparée. Essayer de comprendre les cyclones et les anticyclones sur Jupiter nous aide aussi à mieux comprendre comment ça se forme sur Terre, puisque par exemple la tache rouge de Jupiter, on l'observe depuis l'époque de Galilée, qui fut le premier astronome à observer cette tache rouge. On sait qu'elle existe depuis au moins 400 ans. Donc cet anticyclone qui est énorme, qui fait trois fois la dimension de la Terre, que l'on observe depuis la Terre, même dans une petite lunette, c'est un anticyclone qui existe depuis 400 ans. Donc effectivement, observer ce genre de phénomène nous renseigne aussi sur les conditions qui mènent à leur apparition ou à leur disparition.
Alors Philippe, vous le disiez, un Juno, c'est pas juste un appareil photo pour faire de jolis clichés, ce sont également des mesures. Quoi de neuf alors justement grâce à cette sonde ?
Alors là, dans les publications qui sont arrivées, on cherche un peu, il faut le dire.
Les nouveautés ?
Parce qu'en fait, il faut savoir que bon, les scientifiques en même temps, ils font ce qu'ils peuvent parce que la sonde a eu un problème. Elle s'est satellisée autour de Jupiter, mais elle n'est pas sur son orbite idéale. Je parlais tout à l'heure d'une orbite elliptique, donc en gros, elle passe près, elle s'éloigne de la planète. Elle devrait être sur une orbite circulaire et tout ça, c'est parce qu'il y a un moteur qui s'est pas allumé, que la NASA renonce à essayer d'allumer parce qu'on pense qu'il est vraiment définitivement en panne. Le but de cette sonde premier, c'était surtout de mesurer le champ de gravité autour de Jupiter. C'est-à-dire comment se répartit la masse à l'intérieur de Jupiter. Parce que les planètes géantes, bon, on les voit très bien au télescope, on les observe depuis des siècles, on les a observées avec les sondes Voyager, avec d'autres sondes qui sont passées autour. Mais l'intérieur reste un mystère. Ça nous dirait un peu comment elles se sont formées. Si les modèles qu'on imagine de formation sont les bons, est-ce que par exemple au centre de Jupiter il y a un noyau rocheux ou en tout cas composé d'éléments lourds rocheux comme ça de 10 fois la masse de la Terre comme on le croit, ou est-ce que c'est autre chose? Alors là, avec les données qui sont arrivées, les résultats, il semblerait que c'est pas clair. Voilà la réponse qui est donnée. Mais tout ça, c'est sans doute un peu à cause de l'orbite bâtarde de Jupiter qui n'est pas idéale. Alors peut-être que la mission pourra durer un peu plus longtemps et que
donc ça on ne sait pas. C'est une géante gazeuse.
C'est une géante gazeuse.
On ne connaît pas le cœur de la planète.
Hein. Absolument. Et ça serait très intéressant de vérifier tout ça. Et c'est surtout pour ça, c'était l'objectif, un des objectifs premiers de Juno, que de sonder vraiment l'intérieur de Jupiter avec les phénomènes magnétiques qui en découlent, etc. Alors, il y a des résultats, mais à mon avis, ce sont, à l'heure où on parle, des résultats très partiels.
Alors, malgré les difficultés, Olivier Mouzis, est-ce que Juno a une chance d'aboutir à son objectif principal ?
Ça, je l'ignore. Alors, je rejoins tout à fait Philippe. Hein, donc, l'objectif premier de Juno, c'était d'améliorer notre connaissance de la structure interne de la planète. Avec la mesure clé, la mesure phare qui devait être faite et qui sera peut-être faite, pour l'instant, personne ne le sait, il s'agissait de la mesure de l'eau, l'abondance de l'eau dans Jupiter, puisqu'on sait que l'eau est un constituant majeur dans le système solaire, et on a besoin de l'eau pour former des planètes géantes. On a besoin de l'eau pour former des cœurs, des noyaux suffisamment importants pour qu'ensuite l'enveloppe s'accrète depuis la nébuleuse primitive sur ce dit noyau. Alors le problème de l'eau dans Jupiter, c'est un problème qu'on connaît depuis très longtemps, depuis au moins 20 ans, puisque la mission Galileo dans les années 90 avait envoyé un module de descente atmosphérique dans l'atmosphère de Jupiter pour mesurer justement l'eau en question. Et manque de bol pour les chercheurs, le module de descente qui s'appelait Galileo, donc qui était tombé avec un parachute dans l'atmosphère de Jupiter, il avait fait des mesures in situ. Et manque de chance, on avait envoyé le module de descente dans un anticyclone. C'est comme si vous voulez mesurer l'abondance d'eau sur Terre et vous l'envoyez au-dessus du Sahara. Donc on s'est planté et du coup la mesure de l'eau n'avait pas pu être faite. Et le motif premier de Juno, ça a été justement, on n'a pas pu mesurer l'eau grâce à Galileo. Envoyons Juno vers Jupiter pour mesurer à nouveau la flotte, la présence de l'eau. Et donc il y a un instrument qui s'appelle le radar submillimétrique, qui est l'instrument phare de Juno, c'est l'instrument qui a coûté plus cher qu'est à bord de la mission. Et cet instrument-là, pour l'instant, on ne sait pas s'il arrivera à le mesurer. Ça sera, on le saura dans le prochain épisode, peut-être d'ici un an ou deux. Donc c'est ça le problème.
Philippe, est-ce que la composition des lunes de Jupiter, et notamment leur teneur en eau, peut nous aider à comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de Jupiter ?
Vaste question, j'en sais rien. C'est possible, mais pas sûr. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Juno ne va pas faire ce type de mesure. Juno se concentre sur la planète elle-même. Donc, à suivre.
Et des photos à regarder en attendant, hein,
absolument,
qui sont vraiment très très belles et qu'on vous a postées. On a fait un petit diaporama donc pour vous sur la page Facebook de la Tête au Carré. Merci Olivier Mouzis pour vos explications.
Merci.
À très bientôt. Et Axel, à bientôt également. À bientôt. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les jeunes Ouistiti qui apprennent à parler exactement comme nous, en baragouinant et en imitant leurs parents. Une étude publiée aujourd'hui montre que dans leurs premières années, les jeunes Ouistiti sont incapables de produire le cri caractéristique qu'émettent les adultes. Les chercheurs montrent qu'ils y parviennent d'autant plus vite qu'ils répètent et tentent d'imiter leurs parents. Ils ont validé leur théorie en diffusant des cris d'adultes à deux jeunes jumeaux Ouistiti en captivité. Il s'agit de la première preuve d'un apprentissage d'une forme de langage chez les primates. Protéger les espèces menacées mais sans divulguer les informations scientifiques dont disposent les chercheurs. Dans les colonnes de la revue Science cette semaine, deux chercheurs australiens proposent la voie du secret comme méthode de production des espèces en voie de disparition ou espèces menacées. À l'heure où les publications en accès libre ont la cote, ils invitent leurs confrères à publier plutôt dans des revues privées et surtout payantes afin de minimiser l'accès aux informations et ainsi préserver les animaux d'éventuels touristes curieux ou pire de braconniers. Et puis pour terminer, une drôle d'histoire de pétunia transgénique qui fait le tour du monde en sortant de la gare d'Helsinki il y a 2 ans. Le biologiste Timu Terry remarque un bac de pétunia orange vif qui lui rappelle fortement des fleurs transgéniques qu'il a lui-même créées dans son laboratoire 30 ans auparavant. Le scientifique collecte un échantillon et son analyse est formelle. Ce sont ces fleurs et elles n'ont absolument aucune raison d'être ici car elles sont interdites à la commercialisation et réservées à un seul usage scientifique. Sa démarche a aujourd'hui abouti à la destruction de centaines de plants de pétunia qui avaient été vendus en très grand nombre en Europe comme aux États-Unis. Et c'est le club dans un instant. Study on Falling, la voix d'Assaf Avidan.
La tête au carré. Le club.
Et dans notre club cet après-midi, nous allons vous servir des cuisses de grenouille, de la sérendipité, des énigmes et des casse-têtes scientifiques. Et on va commencer avec vous, Anne-Marie Oller. Vous êtes herpétologiste.
Oui.
Vous étudiez donc
Moi en particulier, j'étudie les amphibiens, ça veut dire les grenouilles, les crapauds, les salamandres, et puis il y a aussi les gymnophiones, c'est des amphibiens sans pattes, un peu comme les serpents, mais en herpétologie, il y a aussi les lézards, les serpents, les crocodiles, les tortues.
Tout à l'heure, hors antenne, Daniel Boursier, vous demandez la racine justement du mot herpétologue. C'est quoi alors en grec?
Log, c'est toujours la science, et herpéton, ça vient d'un verbe qui veut dire ramper par terre. Ça s'est fondé parce que c'était des animaux rampants, comme
c'est ça.
Les serpents.
Donc vous êtes spécialiste de ces animaux rampants et vous êtes professeur au Muséum national d'histoire naturelle. Aline Richard, vous êtes journaliste pour The Conversation France. Avec donc, à partir d'aujourd'hui, on peut cliquer sur le site et voir cet article intitulé « En direct des espèces, méfiez-vous des grenouilles dans vos assiettes ». Vous révélez quoi à vos lecteurs? La recette de la persillade?
Alors en fait, pourquoi pas. J'ai changé le titre ce matin, j'ai mis « Quelles sont les grenouilles présentées dans l'assiette ?» Parce qu'il y a une jolie assiette noire avec effectivement des grenouilles en persillade. Ouais. Et on explique qu'en fait...
On nous ment.
Oui, derrière la persillade, savez-vous quelle est la cuisse de grenouille que vous dégustez?
Et d'où elle vient?
Voilà, et d'où vient-elle? Et donc c'est l'objet de cet article absolument passionnant pour ceux qui aiment les cuisses de grenouille comme pour les autres.
Oui, d'ailleurs, est-ce qu'il y en a beaucoup qui en mangent autour de cette table? Anne-Marie Oller, vous-même, vous mangez vos animaux chéris ou pas?
Je suis contre manger des animaux sauvages, mais ça m'est arrivé parce que je voyage beaucoup et je suis souvent dans la forêt par exemple, et puis quand mes hôtes, ils me donnent des cuisses de grenouille parce que c'est les seules viandes qu'ils ont. Je n'ai pas refusé la nourriture qu'on m'offre, mais je n'achète pas.
Bon,
j'en ai acheté.
David Loa, parce que vous êtes mangeur de grenouilles.
Non, je crois que la dernière fois, ça devait être il y a 25 ans, quand j'étais môme.
Daniel Boursier.
Mais moi, je me souviens, très petite, en Anjou, on chassait les grenouilles avec des petits chiffons rouges. On va savoir si ça a une valeur scientifique.
Les grenouilles, c'est des prédateurs et ils mangent des insectes ou des invertébrés vivants et on utilise ça avec ces petits chiffons. Certaines espèces, ils peuvent sauter dessus. Et c'est vrai qu'il y a jusqu'aux années 70, il y avait la chasse française, il y avait la chasse traditionnelle. Et après, c'est développé les surgelés. Avec les surgelés, c'est développé l'extinction de la grenouille française. On a protégé les Français. On s'est tourné vers d'autres pays. Et en France, maintenant, c'est très, très réglementé, la cuisse des grenouilles.
Alors, racontez-nous. Parce qu'il y a deux parties, en fait, dans cet article. D'abord, un coup de projecteur, on va dire, sur une science qui s'appelle la systématique, est née à la Renaissance. Qu'est-ce que c'est en deux mots?
En fait, il s'agissait de la fondation des muséums, des jardins botaniques. Il s'agissait d'avoir des outils pour identifier au début les herbes médicinales et les spécimens qu'on avait. Et pour ça, on se rendait compte qu'il faut avoir les spécimens sous les yeux parce que le mot seul qu'on trouvait dans les livres, et traître sous un terme peuvent se cacher plusieurs termes. Et je pensais que c'est un bon exemple pour montrer ce que se passe actuellement avec les méthodes moléculaires. C'est mon travail, la systématique. J'aime bien défendre cette science. Et en fait, c'est une très ancienne science. Et je dis même, ça va au-delà, parce que c'est très important. Chaque fois qu'on décide, on mange ça, on mange pas ça, ou je choisis un légume ou un autre, je fais un acte d'identification. Enfin, j'ai exagéré ça un peu. Et je pense que c'est une méthode très une science ancienne et une science très moderne, très important, savoir ce qu'on mange.
Donc c'est systématique gastronomique, on pourrait presque dire les choses comme ça.
Enfin, ce que je fais moi, ça va loin au-delà de ça, mais pour chacun de nous, ce qui nous intéresse, c'est par exemple ça.
Aline, Richard.
Surtout, la systématique, je dirais à la sauce moderne, c'est quelque chose en fait qui nous concerne tous et qui est très important parce que on connaît les nombreux scandales dans le monde de l'alimentation et de l'alimentaire. Il faut bien voir que les analyses moléculaires ou les analyses génétiques sur de la viande de bœuf qui est en fait de la viande de cheval.
Oui, les lasagnes par
exemple. Voilà, les lasagnes, c'est ça qui va nous révéler la fraude. Et donc c'est vraiment des outils tout à fait importants.
Peut-être que Maïté, dans sa cuisine, faisait, sans le savoir, de la systématique.
Regardez ça. Qu'est-ce qu'il y en a là, dessus, ça bouge?
Des petites bouge. Grenouilles.
Des grenouilles que vous nous avez gardées au frais là-dedans? Eh bien, je pense. Hein. Elles viennent de cette région, Maïté?
Ah, oui, la Dordogne. C'est un élevage que nous avons la chance d'avoir en Dordogne.
Ah, très bien. Moi, je croyais que quand on mangeait des cuisses de grenouilles, elles étaient importées, qu'elles venaient du Japon.
Ben oui. Quand on n'a pas la chance d'avoir des cuisses jusqu'à présent, évidemment. Mais là, maintenant, il y a un élevage superbe. Quelle différence entre les congelés et ceux-là,
hein? La chair de la grenouille, vous savez, moi, j'ai lu dans des bouquins, Escoffier, des bouquins du siècle dernier, c'est ce qu'il y a de plus fin. Hein?
La grenouille?
La chair de grenouille, c'est très délicieux. Délicieux, c'est délicieux, bon. Délicieux. C'est pas pour rien que les Anglais se moquent de nous, parce qu'ils n'ont pas tellement le goût de ces choses-là.
Hein, oui, mais ils ne savent pas manger.
Ils disent toujours qu'on est des mangeurs de grenouilles.
Chance. Voilà.
Eh bien, il faut essayer pour voir comme c'est bon. Hein. Comment vous allez les faire aujourd'hui?
Eh bien, malheureusement, eh bien, on va les tuer et puis on va les préparer.
Voilà, ça c'est évidemment la méthode Maïté. Un bon coup de massue sur la grenouille. Sauf que nous, maintenant, celle que nous mangeons, ben, elle nous arrive toute prête. C'est-à-dire qu'on a ces cuisses de grenouille, Anne-Marie Holler. Et justement, votre travail, ce que vous expliquez dans l'article de The Conversation, c'était savoir d'où venaient ces grenouilles. Parce qu'on nous ment, visiblement. Hein.
Oui, en fait, on savait que c'est importé de l'Indonésie, mais l'Indonésie, c'est un grand pays avec beaucoup d'îles et des origines très diverses. Et en fait, il n'y a pas vraiment obligation de les étiqueter, mais ils se vendent sous un nom. Et je sais de mes expériences sur le terrain que les différentes espèces asiatiques, ils ont différents goûts et qu'il y a des importances aussi dans le prix. Mm-hmm. Et les personnes sur place, ils préfèrent certaines espèces à d'autres parce qu'ils auraient meilleur goût.
Alors sur les paquets, on voit principalement une espèce qui s'appelle Rana macrodon, c'est ça? C'est ce qu'on nous met sur le paquet?
Oui, c'est sur les paquets. C'est une grenouille qui vit dans les rivières. Et en général, les grenouilles des rivières, ils auraient meilleur goût que les grenouilles des mares.
Et elle vient des rivières indonésiennes, cette grenouille, en l'occurrence?
Oui, voilà. Java, oui, c'est
Java. Et alors vous, justement, avec la génétique, vous êtes allé fouiller un petit peu dans l'assiette et vous avez découvert quoi alors?
En fait, on a acheté ces cuisses de grenouilles sur un laps de temps d'une demi-année dans différents magasins. Et puis, on a pris des échantillons et fait des séquençages de standard. Et derrière, il y a des bases de données, des séquences qui permettent d'identifier. On s'est rendu compte que, en fait, 99% des échantillons qu'on avait étaient mal déterminés. C'était en fait une autre espèce.
La totalité, quasiment?
Quasiment. Il y avait en fait, sur 200 grenouilles, il y avait une qui était bien déterminée. Ça veut dire c'est même moi. Enfin,
oui, c'est pas beaucoup, effectivement. Ouais. On en mange beaucoup en France, des grenouilles ou pas?
Bah, on importe. Consomme combien, en fait, c'est la France et la Belgique qui importent le plus en Europe. Enfin, les autres pays, c'est anecdotique. Et en fait, une partie de l'importation belge revient en France. Ça veut dire que c'est quasiment tout. Et c'est environ 5000 tonnes les derniers 10 ans sur lesquels on a les statistiques. Et les collègues indonésiens ont calculé que ça ferait à peu près 100 millions d'individus de grenouilles.
Ah oui, quand même.
Ouais.
Ouais, donc on mange encore de la grenouille en France, quand même, un petit peu. Oui. Alors, qu'est-ce que ça nous dit finalement, le fait que ce ne soit pas la bonne espèce indiquée sur l'emballage?
Enfin, il y a tricherie là-dessus, mais je crois que c'est pas les importateurs et pas les vendeurs en France. L'importateur s'est fait tricher par celui qui le vend ça, parce que la grenouille qu'il achète, elle doit être plus chère de ce qu'il est déclaré.
Et du point de vue des espèces aussi, de la conservation.
Les espèces, ça veut dire, bon, d'une certaine manière, c'est bon, parce que l'espèce qui est sur l'étiquette, elle est très rare. C'est-à-dire que c'est celle qui est moins rare qu'on a, mais ça veut aussi dire que l'espèce est très rare et quasiment absent maintenant, je crois, dans la nature, parce qu'il y a 20 ans, il y a 17 ans, il y a une étude, et là, à l'époque, il y avait plus de 30% encore des vraies grenouilles, enfin, de l'espèce déclarée dans les échantillons. Ouais. Et je pense que simplement, elle devenait extrêmement rare.
On l'a mangée, en fait.
On l'a mangée.
Oui, on l'a mangée, voilà. Donc, c'est la fin de cette espèce, alors qu'on nous la vend toujours sur les paquets. Comment on peut s'occuper de conserver? Parce que c'est un vrai problème, quoi. Les amphibiens, aujourd'hui, dans la biodiversité mondiale, ce sont des populations animales qui enregistrent des effondrements. Hein.
Oui, et c'est les populations enregistrent des effondrements partout. Et aussi, c'est le groupe des vertébrés qui, on estime, qui a le plus de taux d'extinction à parler critères de l'UICN, de l'Union de la protection des animaux. C'est-à-dire, c'est plus de 50 espèces des amphibiens qui sont menacées de disparition. Mm-hmm. C'est surtout le changement d'habitat, forêt et les eaux qui sont polluées. Mais après, pour certaines espèces, la consommation doit jouer, mais mais c'est surtout les espèces de très très grandes tailles.
Voilà, donc Aline, on le comprend, hein. C'est pas un article sur la persillade des cuisses de grenouille, mais vraiment sur la prise de conscience de la
Absolument.
Disparition de ces espèces
et
animales.
Sur, et sur la façon dont les scientifiques peuvent déjouer les fraudeurs.
Avec la systématique, en l'occurrence, et les outils moléculaires aujourd'hui à votre disposition, qui sont infaillibles, mais qu'on utilise très peu, hein.
Oui, très peu, parce qu'actuellement, c'est pas des coûts. Enfin, avant, c'était vraiment très difficile, hein, il y a 20 ans encore, mais actuellement, c'est ni cher, ni particulièrement compliqué, et on pourra avoir des contrôles plus réguliers. Ouais.
Article à lire sur The Conversation France.
Absolument.
.fr.com, Aline, je vous le demande à chaque fois, j'arrive pas à retenir.
Alors, www.theconversation.fr/com.
Voilà, il est en lien sur La Tête au Carré. Allez, dans un instant, les énigmes et les casse-têtes de la science. Comme toi, Clara Luciani et Thierry Dupin pour la programmation musicale de ce club de La Tête au Carré. David Louapre, vous êtes physicien, chercheur, vidéaste, scientifique et youtubeur avec Science Étonnante. Vous travaillez dans un laboratoire toujours?
Oui, oui.
Ouais, et vous faites parallèlement donc de la vulgarisation scientifique?
Voilà, c'est mon activité nocturne, la vulgarisation.
Ouais. Ah oui, oui, vous faites vos vidéos le soir?
Ouais, le soir, le week-end.
Le week-end. Quand j'ai le temps. Comment vous avez eu l'idée, parallèlement à votre travail de physicien, de faire de la vidéo alors, pour les youtubeurs?
En fait, j'ai commencé sur un blog. J'ai commencé il y a 6-7 ans par l'écrit. En fait, je suis passé à la vidéo il y a 2-3 ans, à partir du moment où c'était devenu un média très puissant pour faire la vulgarisation.
Ouais. Et vous sentez vraiment ce rapport très direct avec les internautes?
Bah c'est je pense surtout pour les internautes qu'il y a un rapport qui est beaucoup plus direct que par l'écrit, qui garde toujours un petit côté un peu impersonnel. Et donc, je pense que du point de vue pédagogique, la vidéo est quelque chose d'assez puissant.
Mais on voit de plus en plus d'ouvrages chez les youtubeurs aussi, hein, qui sont édités maintenant dans
les
maisons d'édition.
Vrai,
hein.
C'est vrai.
Donc, comme quoi, il faut quand même passer par l'écrit aussi toujours. C'est complémentaire par rapport à ce travail que vous faites?
Bah, pour moi, c'est une manière différente. Bon, déjà, moi, je viens plutôt de l'écrit à la base, hein, puisque j'ai commencé sur un blog. Donc, c'est une forme qui est assez naturelle, peut-être plus naturelle pour moi que la vidéo. Et ça permet, déjà de toucher un public différents, d'avoir des approches différentes, enfin, tous les modes de communication ont leur vertu.
Alors, de quoi vous nous parlez sur YouTube, avant de parler de l'écrit précisément? Vous avez des sujets assez éclatés, vous faites que de la physique?
Non, je fais pas que de la physique, parce que moi j'adore toutes les sciences, donc voilà. voilà, je fais de la physique, de la bio, des maths, un peu de sciences sociales.
Ouais. Donc vous allez sur des terrains qui sont a priori pas les vôtres non plus ?
Ah oui, la plupart du temps, c'est des terrains qui sont pas les miens. Quand je parle de physique fondamentale, c'est ouais, ce que j'ai étudié et ce sur quoi j'ai travaillé. Mais sinon, ouais, le reste du temps, oui, c'est des sujets qui sont pas mes spécialités de base.
Alors très récemment, vous avez fait une vidéo qui a été beaucoup consultée. Ça s'appelle « Réformons l'élection présidentielle ». J'aimerais bien qu'on en dise un petit mot parce que c'est une vidéo très intéressante qui nous interroge sur la façon dont nous élisons aujourd'hui nos dirigeants.
Oui, alors c'est une vidéo un peu sur les mathématiques du vote. C'est-à-dire, est-ce que mathématiquement, il y a une manière de voter qui est plus intéressante qu'une autre, une manière d'organiser le scrutin. Aujourd'hui, on fait le scrutin à deux tours, hein, on l'a vu dans l'élection présidentielle. Et en fait, c'est un scrutin qui a des tonnes de défauts, qui est plein de paradoxes. Et donc, il y a depuis longtemps, en fait, des mathématiciens qui se sont penchés sur la question, est-ce qu'on peut trouver un meilleur moyen d'élire un président ? Et il existe des moyens qui sont bien meilleurs que celui qu'on a actuellement.
Et qui représentent mieux l'opinion.
Absolument,
aussi.
Voilà.
Alors, ce serait quoi le meilleur moyen, d'après ce que vous avez étudié?
Alors moi, mon préféré, c'est une méthode qui s'appelle le jugement majoritaire et qui consiste à juger les candidats indépendamment les uns des autres. C'est-à-dire, on ne fait pas un classement où on ne fait pas un seul choix. Chaque candidat, on exprime son opinion sous la forme d'une mention, donc un peu comme au bac ou à l'école.
Ouais. Et vous expliquez ça vraiment très très bien, cette vidéo, donc on peut la voir sur Science Étonnante. Mais en attendant, et à partir du 31 mai prochain, parce que le livre n'est pas encore sorti, c'est on peut le commander évidemment sur Internet, mais il sera le 31 mai en librairie chez Flammarion. Insoluble mais vrai, ces énigmes et casse-têtes qui résistent encore à la science. Alors, ce que vous montrez, c'est qu'en science, il semblerait qu'on ait à peu près tout démontré. Ben non, pas du tout. Il y a encore plein de problèmes qui se posent.
Pas du tout. C'est vrai qu'on parle souvent, quand on parle de science, c'est souvent pour expliquer ce qui a marché, parce qu'on a fait une découverte, parce qu'on a compris quelque chose. Et en fait, il y a des tas de choses qui ne marchent pas, et il y a des tas de choses qui ne marchent pas depuis longtemps. Il y a quelques très grands problèmes dans toutes les sciences, hein, que ce soit des maths, de la physique ou de la biologie, qui résistent encore aux chercheurs, et sur lesquels les chercheurs travaillent depuis des décennies, tentent des pistes, et ça n'aboutit pas.
Ouais, alors la question de l'apparition de la vie, par exemple, c'est quand même une question qui nous intéresse tous, celle de nos origines. C'est encore le gros point d'interrogation.
Ouais, le gros point d'interrogation, parce qu'on comprend à peu près ce qui s'est passé avec la théorie de l'évolution, disons, depuis, on va dire, une cellule jusqu'à aujourd'hui. Mais comment on est passé de constituants inertes à une première cellule et voilà, les premiers organismes et c'est des choses, du coup, pour lesquelles on a assez peu d'informations, forcément, puisque ça date d'il y a 4 milliards d'années. Et on travaille sur des hypothèses, mais ça reste très difficile.
Où sont les extraterrestres ? Est-ce que nous sommes seuls dans l'univers ? C'est encore une question quand même fondamentale qui nous intéresse.
Ouais, absolument. Alors moi, je suis convaincu qu'il y a plein d'extraterrestres partout. Mais
Vous pensez qu'il y a d'autres terres similaires à la nôtre ?
Bah, statistiquement, il y a quelque chose comme 10 puissance 23 étoiles dans l'univers visible. Donc même si la probabilité d'avoir une planète qui est super bien les bonnes caractéristiques est faible, moi, il y a un paquet qui doit être bonne.
Moi, je suis assez d'accord avec vous. Alors, on va revenir sur Terre, justement, dans ce pays qui s'appelle le Pays Basque, tout simplement. Est-ce que vous êtes intéressé aussi ? Ça fait partie des mystères autour de la langue basque. Il y a vraiment des questions qui se posent encore sur l'émergence de cette langue ?
Oui, absolument. Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que la linguistique est une science. Hein. C'est un truc important de rappeler. Et qu'il y a un certain nombre de problèmes ouverts en linguistique aujourd'hui. Et donc, un que je trouve très intéressant, c'est la question de l'origine du basque. Parce qu'en fait, toutes les langues que l'on connaît se ressemblent plus ou moins les unes les autres. Et en fait, on peut faire comme avec les animaux. C'est-à-dire qu'on peut faire une forme de systématique où on arrive à classer les langues et à les apparenter les unes aux autres.
Et là aussi, il y a des disparitions d'ailleurs hein, dans les
langues. Oui, absolument.
Dans les
langues. Ça marche comme les animaux, il y a des langues qui s'étendent, certaines qui disparaissent. Et en fait, alors le basque, par contre, elle ne ressemble à aucune autre langue connue. Donc on arrive à la relier à aucune autre langue connue et du coup, on a très très peu d'idées sur son origine.
Combien de gens la parlent aujourd'hui à peu près ?
Je crois que c'est à peu près des vraiment qui la parlent natif, c'est 700 000 et si on compte les bilingues, c'est plus proche de un peu plus d'un million, je crois.
Alors c'est marrant parce qu'il y a quand même des hypothèses très amusantes. Vous parlez des Dogons, par exemple. Il y aurait un lien entre le basque et l'Afrique ?
Bah oui, parce que alors du coup, les chercheurs en sont réduits à tenter tout un tas de choses et donc à essayer de faire des liens entre les langues. Et alors il y a un chercheur, ça a été assez controversé, qui a trouvé des liens de parenté entre le basque, de ressemblance entre le basque et le Dogon. Alors voilà, ça a été une hypothèse pendant un moment, mais qui aujourd'hui n'est pas du tout l'hypothèse qui est en faveur des scientifiques.
Aline Richard.
Mais je dois retarder affreusement, vous m'en excuserez, mais je pensais que ça avait des liens avec les langues finno-ougriennes, avec le hongrois et le finlandais, donc
tout à fait
je dois
honnête,
être nul.
Pour être tout à fait honnête, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet pour écrire un chapitre dans le bouquin, je pensais que justement le basque était relié au finno-ougrien et je voulais faire un chapitre sur les langues finno-ougriennes, donc le finlandais, le hongrois, qui ne ressemblent pas du tout aux langues dont on a l'habitude. Et c'est en faisant ça que j'ai découvert que le basque était encore plus particulier parce qu'il ressemblait même pas aux langues finno-ougriennes. Donc c'est pour ça que j'ai mis l'accent sur le basque qui est vraiment un mystère.
Ouais. Faites gaffe à ce que vous dites, David, parce qu'on a un basque derrière la vitre. Voilà. Eric, le technicien qui est là et qui vous écoute attentivement. Est-ce que l'ADN peut nous permettre, tiens, aussi comme les animaux, d'en savoir plus pour tracer l'origine d'une langue ?
Alors oui, c'est très important parce que quand on parle par exemple du basque, évidemment la question de l'origine du basque, elle est très liée à la question de l'origine des basques, du peuple basque. Et donc pour essayer de comprendre d'où peut venir cette langue, est-ce que ça a été influencé par des migrations, etc., on peut recourir à des analyses génétiques. Et donc il y a eu un résultat notamment il y a quelques mois très intéressant là-dessus, où en fait on a analysé l'ADN de fermiers qui vivaient il y a 4500 ans au Pays Basque, et on a pu montrer, enfin apporter des éléments pour montrer que probablement l'origine du peuple basque était une origine mélangée de migrants qui seraient arrivés à cette époque pour apporter l'agriculture et d'un peuple qui vivait localement.
Ouais. Bon, on arrive à dessiner donc des scénarios.
Voilà, il y a quelque chose qui se dessine, mais ça reste assez ouvert.
Bon, ça fait partie d'une des énigmes justement de cet ouvrage Insoluble mais vrai. Mais alors vraiment, vous êtes dans tous les domaines. Hein. On parle de la chimie aussi. Alors le tableau de Mendeleïev, par exemple, intitulé Le Lego de l'univers est-il complet ? Ça, c'est amusant aussi, parce qu'on apprend plein de choses.
Alors, le tableau de Mendeleïev, c'est un peu comme des pièces de Lego. Hein. C'est une centaine de pièces de Lego avec lesquelles on peut fabriquer des molécules. Ouais. Et en fait, on peut se demander, est-ce qu'on les a tous trouvées, ces pièces de Lego? Alors,
de son vivant, Mendeleïev, il en avait trouvé combien?
Alors, je crois qu'il en avait dû en trouver une cinquantaine ou une soixantaine. Et ce qui est amusant, c'est qu'il avait fait son tableau, il remarquait qu'il y avait des trous à certains endroits. Et donc, il avait déduit qu'il devait y avoir des éléments qu'on n'avait pas trouvés, mais qui seraient bien à cet endroit dans le tableau.
Il ne se trompait pas.
Alors, on les a découverts ensuite. Et donc, aujourd'hui, depuis pas longtemps, on a 118 éléments dans le tableau périodique. Les derniers ont reçu leur nom officiel.
Il y en a eu 4,
Voilà, il n'y a pas longtemps. Il y en a eu 4, effectivement. Et on peut se demander, est-ce qu'il y en a d'autres derrière? Alors, il y a bonne raison de penser qu'il y en a d'autres, mais ils sont très compliqués à fabriquer. Ouais. Et donc, c'est très difficile d'essayer de répondre à cette question et de savoir jusqu'où on peut aller dans le tableau périodique, parce que c'est très, très compliqué à fabriquer.
Aline?
Je crois que, en fait, les super lourds, enfin, ces nouveaux Lego de Mendeleïev, en fait, ils n'existent pas dans la nature, je crois c'est absolument extraordinaire, c'est-à-dire qu'on crée des choses.
Des éléments, c'est-à-dire qu'à partir de, je crois, c'est l'uranium, donc qui est le numéro 92, tous ceux qu'il y a derrière, c'est des éléments qui n'existent pas à l'état naturel, en tout cas pas sur Terre, et qu'on est, pour les découvrir, en fait, on doit les fabriquer. Alors on fait des collisions d'atomes en espérant en fabriquer des nouveaux. Et par exemple, si on prend le 118, qui est donc le plus gros qu'on connaisse, on en a fabriqué que 3 atomes depuis qu'on essaye, et la durée de vie de l'atome, c'est 0,7 millisecondes.
Oui, c'est pas pratique pour donc, les observer. Ça va super vite, effectivement. Pourquoi vieillit-on? Alors, encore un sujet du livre, sur les... Qu'est-ce qu'on ignore encore? Le processus même du vieillissement?
Même la raison du vieillissement. Pourquoi est-ce qu'on vieillit? Ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, toutes les cellules ou presque de nos organismes se renouvellent, des fois à une vitesse assez élevée. Par exemple, les cellules de la peau se renouvellent très vite. C'est-à-dire qu'en quelques semaines, les cellules de notre peau ont complètement changé. Et pourtant, notre peau...
semble la même.
Contient des traces de vieillissement. Alors, qu'est-ce que c'est le vieillissement et pourquoi les organismes vieillissent? Est-ce qu'il y a une raison biologique au fait que les organismes vieillissent? On ne sait pas. Et en fait, on est réduit à penser qu'on pourrait très bien ne pas vieillir. D'ailleurs, il y a quelques animaux qui ne vieillissent pas.
Oui. Très peu, mais certains connaissent l'immortalité, on peut dire.
Il y a notamment le homard qui peut vivre très 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 longtemps et qui finit par mourir parce que quand il devient trop gros, il n'arrive plus à muer, mais qui biologiquement en fait ne vieillit pas. Et puis il y a l'hydre qui est un petit animal aquatique et qui là pour le coup, on n'a jamais pu observer la moindre forme de vieillissement. Et donc cet animal en fait avait été appelé comme ça parce que quand on le coupe en deux, on forme deux hydres.
C'est ça, Daniel Boursier.
Oui, mais alors qu'est-ce que vous pensez du transhumanisme? Est-ce qu'on peut transposer votre idée à l'homme?
C'est un peu la même chose. C'est-à-dire que le transhumanisme, ou là, par exemple, la vision selon laquelle on pourrait vivre en étant juste des données dans un réseau informatique, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos cellules, elles se renouvellent, donc on pourrait imaginer qu'elles conservent l'information et puis on puisse vivre éternellement comme ça.
Donc, c'est pas une galéjade, c'est possible. Alors,
je sais pas si techniquement on va y arriver rapidement, mais.
En tout cas, ça fait fantasmer beaucoup de monde. Ouais. Insoluble mais vrai, ces énigmes et casse-tête qui résiste encore à la science. Vous en avez plus d'une vingtaine que vous avez sélectionné, David Loapre. Donc ça sort le 31 mai.
C'est ça.
Et c'est chez Flammarion.
C'est chez Flammarion.
Vous restez avec nous parce qu'on a un livre complémentaire au vôtre, mais ça, ce sont plutôt les énigmes résolues par hasard et par la science. Sex bomb. Tom Jones et Mousti à l'instant avec Sex Bomb.
La tête au carré. Le club. Sur France Inter.
Dernier invité de notre club, Daniel Boursier. C'est quoi la sérendipité? 80 découvertes dues au hasard et qui ont bouleversé le cours de l'histoire. C'est aux éditions Le Courrier du Livre, ouvrage écrit avec Peck van Andel et dans lequel donc vous nous présentez un certain nombre effectivement de découvertes. Alors là aussi dans des domaines extrêmement vastes, puisqu'on va effectivement du glycogène à la chimiothérapie, en passant par le roquefort et la tarte tatin. Et tout ça, ça parle de sérendipité.
Oui, effectivement, ça c'est un choix à la fois de montrer et dans le temps, puisqu'on parle, on part aussi de très de la préhistoire, montrer que ce phénomène est jusqu'à maintenant, c'est un phénomène constant. C'est, je pense que c'est peut-être un phénomène lié à l'évolution justement.
Ouais.
Et alors au niveau des sciences, et pas seulement des sciences, d'abord toutes les sciences, on connaît la sérendipité, c'est-à-dire l'art en fait à partir d'une observation surprenante de faire une inférence réussie. C'est l'art de faire des trouvailles.
Ouais. Et quand Christophe Colomb débarque en Amérique alors qu'il comptait pas y aller au départ, il fait de la sérendipité sans
le
savoir.
Il fait de la sérendipité parce que lui, il voulait trouver une route à l'ouest.
C'est ça,
et
ouais.
Finalement, d'ailleurs, il est mort sans savoir qu'il avait découvert un territoire nouveau.
Ouais.
Donc, et ça, c'est un phénomène qu'on trouve beaucoup dans la sérendipité. C'est-à-dire que les gens, ça peut se passer sur plusieurs générations de chercheurs. Il y a quelqu'un qui sent... Fleming, par exemple, n'a pas trouvé... Il a observé effectivement comment des staphylocoques avaient été littéralement mangés par cette moisissure, mais il a observé, il a compris, mais il n'a pas pu l'expliquer. Donc vous voyez, c'est tout un phénomène.
Alors vous, Daniel Boursier, vous êtes directrice de recherche au CNRS, en droit et en technologie et en éthique des sciences. Alors pour un scientifique, pour un chercheur, la part de sérendipité, on peut la favoriser ou pas? Est-ce que c'est important? Est-ce qu'ils sont rares, ces chercheurs qui trouvent par hasard?
Alors c'est une très bonne question. Parce que en fait, qu'un chercheur dise qu'il a fait une découverte fondamentale par hasard, c'est pas tout à fait correct, si je puis dire. Donc c'est pour ça que c'est assez difficile.
Vous dites c'est mal vu?
C'est pas très bien vu. C'est pour ça que c'est, dans les discours à Stockholm au moment du Nobel, les chercheurs, c'est très intéressant de lire ces discours parce que certains se laissent aller à dire que leur découverte a été faite par hasard.
Ouais.
Mais c'est aussi parce qu'on a un mauvais rapport au hasard. Peut-être que le mot hasard non plus n'est pas tout à fait bien trouvé.
Ouais.
Mais en fait, ce que veut dire la sérendipité, c'est que parallèlement à l'hypothèse qu'on connaît de travail à partir de l'expérience trouvée généralisé, on peut trouver d'autres façons de chercher et de trouver.
Alors, est-ce qu'il y a un terreau fertile quand même pour la sérendipité? C'est-à-dire qu'il faut des traits de caractère particuliers, il faut de la curiosité, il faut justement oser aller au-delà des dogmes?
Je pense que, on ne va pas faire la psychologie des scientifiques, mais ça revient quelquefois un peu à ça. On est obligé de voir qu'il y a effectivement un profil de gens qui n'aiment pas trop qu'on leur dise quoi faire.
Ouais.
D'ailleurs, souvent, c'est quand même un peu j'espère, à l'origine de la vocation d'un scientifique. Parce que si on lui dit quoi faire, à mon avis, c'est même pas la peine de chercher. C'est le paradoxe de Platon, on le connaît. Mais non, ce qu'il faut surtout, c'est dans certaines cultures, favoriser ce qu'on appelle un certain empirisme. On sait que la France est plutôt cartésienne. Elle croit encore beaucoup à la rationalité. On a vu dernièrement, dans les derniers événements justement politiques, finalement, il y a des phénomènes de de sérendipité un peu partout. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir un plan au départ pour trouver des solutions. On peut trouver en marchant.
Alors, il y a plein d'exemples, hein. La viande grillée, le bouchon de champagne, la montgolfière, le Viagra. Alors, ça, c'est rigolo, le Viagra, quand même, non?
Oui, je sais, ça retient beaucoup, ça retient beaucoup l'attention.
On peut en dire un tout petit mot très rapidement.
Un mot très simple. Effectivement, il y avait une population de d'hommes, disons, qui devait tester un médicament qui était en fait au départ un anti, c'était pour le cœur, une maladie de cœur. Et en fait, ils se sont aperçus que en fait, ça, il y avait des fonctions érectiles qui n'étaient pas du tout prévues à ce médicament. Et d'ailleurs, il a fallu interrompre parce que tout le monde était d'accord pour continuer l'expérience.
Et ça fait la fortune du laboratoire qui a trouvé ça. Rosa Parks, la chute du mur de Berlin, l'électrocardiogramme, l'aspirine, la fission nucléaire, les grottes de Lascaux. Tout ça, c'est de la sérendipité au fond.
Oui,
hein,
parce que si vous voulez, vous avez parlé de découverte, on a parlé de hasard, mais c'est ni tout à fait l'un ni tout à fait l'autre. Ce qu'on a sélectionné, c'est le moment de la découverte qui justement est une sorte de bascule, une espèce de rupture qui est tout à fait compréhensible parce que si on veut vraiment chercher quelque chose de nouveau, il faut qu'il y ait une rupture, sinon on répète l'ancien. Mais alors, on peut le trouver exactement, ce moment de rupture dans l'expérience, on peut trouver dans la vie quotidienne, on peut d'ailleurs prouver que le coup de foudre, c'est une forme de sérendipité, vous voyez, on peut aller très loin. Dans la cuisine, le vin, les vins oubliés par exemple dans des cales des bateaux et on doit les jeter à un moment donné. Il y a un marin qui dit mais attendez, on va peut-être le goûter ce breuvage. C'est comme ça qu'on a découvert le madère, on a découvert la coivite, etc.
Le roquefort, la tarte tatin, la mayonnaise.
Le temps joue beaucoup dans l'expérience. Et le temps que n'ont pas les chercheurs, quelquefois le temps, les choses se passent sans le chercheur. Et effectivement,
on va demander à nos scientifiques ce qu'ils en pensent. Anne-Marie Oller.
Je pense que parfois il faut aussi regarder plus près quand quelque chose n'est pas comme il faut. Il faut être prêt, par exemple, de le voir d'un autre angle, de voir une autre solution. Bon, dans la systématique, parfois j'en pense, il faut qu'il y ait deux espèces. Mais je dis souvent, quand tu comprends pas que c'est deux, peut-être il faut partir que c'est plus autre chose et revoir, enfin être prêt. Et très ouvert.
C'est là qu'on fait la découverte.
À voir autrement les choses. Parce que, évidemment, on nous apprend tous à faire des projets de recherche, à comprendre qu'est-ce qu'on va trouver, parce qu'on veut nous donner, on veut aboutir à des résultats. Enfin, on veut savoir où mettre l'argent. Mais en fait, les choses viennent quand on a cette, à ce qu'on peut se mettre sur un autre angle et voir la chose autrement. Et ça, je pense, c'est vrai, c'est aussi un peu un caractère d'être capable de
faire l'école buissonnière de la science un petit peu aussi de temps en temps. David Louapre.
Oui, puis c'est de beaucoup laisser place à l'expérience. Moi, j'ai un cas personnel une fois où voilà, on avait une expérience à faire. On était limite à pas vouloir la faire parce qu'on était sûr du résultat, ça allait monter. Et puis on se dit bon, allez, pour être propre, on l'a fait quand même. Et puis là, ça montait pas, ça descendait. Et c'était complètement inattendu. Et en fait, on a fini par comprendre pourquoi et ça nous a ouvert beaucoup de portes.
C'était Viagra en fait, c'est ça. Daniel Boursier, vous donnez plein d'exemples. Daguerre, par exemple, avec la photographie, l'invention de la photographie.
Et oui, alors c'est intéressant, l'invention du daguerréotype, parce que Daguerre n'était pas du tout un chimiste ou un scientifique, où il était, en fait, il faisait des décors de théâtre. Mais il s'était un peu accoquiné avec Niepce, et Niepce est mort, et lui a dû continuer. Et en fait, le problème qu'il n'arrivait pas à comprendre, c'est comment fixer une image, comment la rendre permanente sur une plaque de cuivre. Et donc il cherchait, il trouvait pas. Et un jour, tout à fait par hasard, peut-être lassé, enfin je connais pas trop le détail, mais c'est intéressant de savoir qu'il a mis une plaque qui était impressionnée mais pas assez dans un placard et il l'a laissé là. Il est revenu quelque temps après, il a vu cette plaque qui avait changé et qui justement avait révélé de façon beaucoup plus forte l'image. Et alors à ce moment-là, il s'est dit bon, il s'est passé quelque chose dans ce placard. Alors il a vidé le placard, les choses une par une, pour essayer, par élimination, d'essayer de voir. Et finalement, il a trouvé une toute petite goutte de mercure qui avait été laissée sur une étagère. Voilà, alors c'est ça. Alors, c'est l'opiniâtreté, c'est
l'intuition,
quand même. Découvrir des énigmes. C'est, à mon avis, si on n'a pas cette curiosité qui est, à mon avis, à l'origine de la science, si on n'a pas cette, comme l'étaient les chasseurs d'ailleurs, c'est la curiosité, c'est l'interprétation à partir des traces, à partir d'informations incomplètes, essayer de comprendre, est-ce qu'on peut trouver une théorie, une loi qui tienne compte de ce effet anormal.
Mais c'est intéressant parce qu'il y a un vrai pont entre vos deux ouvrages, au fond, avec David Louapre. Hein. Ouais, c'est vraiment ces énigmes en suspens. On se dit que finalement, on va arriver à les découvrir, à donner des réponses, parce qu'on aura un scientifique hyper curieux et qui va avoir cette démarche. Au fond,
ouais. Hein. Il y a un exemple sympa dont je parle dans le bouquin, qui est la supraconductivité, qui a été découverte par sérendipité, parce que c'est des Kamerling-Hons qui ne s'attendaient pas du tout à trouver ça, et que 100 ans plus tard, on explique toujours pas. Donc, des fois, les deux se rejoignent.
Ouais. La bouillie bordelaise, par exemple, autre exemple de sérendipité.
Alors, effectivement, on peut penser que c'est plutôt du domaine de l'œnologie, mais c'est aussi du domaine de la chimie. Mm-hmm. Effectivement, il y avait, bon, pour faire très bref, une épidémie de mildiou vers 1880 dans le Médoc, qui s'était étendue, et personne, enfin la faculté de biologie n'arrivait pas, et notamment un certain Alexis Millardet n'arrivait pas à trouver une façon d'enrayer le mildiou, qui est en fait une maladie qui abîme non seulement la feuille mais aussi le fruit. Et un jour il se promenait dans le Médoc et il a observé quelque chose d'assez étonnant, c'est-à-dire qu'en bordure de route il voyait que le mildiou n'avait pas touché les différents pieds de vigne. Et il s'approchait, il a vu qu'il y avait cette espèce de substance que tout le monde connaît, qui est la bouillie bordelaise, et qui était un mélange de sulfate de cuivre et de chaux, et qui avait pour objectif d'éloigner les chapardeurs qui avaient une tendance à prendre les branches qui étaient en bordure de route. Et il a dit, mais c'est un drôle de phénomène. Donc il a analysé, donc il a demandé à analyser justement quel était ce produit, ce sulfate de cuivre, et finalement il a découvert que c'était en fait une excellente façon d'arrêter le mildiou. Alors vous voyez qu'on peut détourner complètement les objectifs.
Très vite, Aline, pour terminer, très
vite.
Non,
mais j'étais juste en train de me demander si les grenouilles pratiquaient la sérendipité pour éviter de se faire manger.
Oui, il faudra que les chercheurs nous donnent la réponse à cette question, tout comme par exemple celle sur l'aspirine. Hein, on découvrira vraiment que ce médicament, il aurait du mal d'ailleurs à émerger aujourd'hui, l'aspirine.
Hein. Oui, pareil, vous avez vu, on est obligé de simplifier cette histoire.
Absolument.
Il y a beaucoup de...
Ouais. De rebondissements.
Il y a beaucoup de rebondissements, parce que aussi, à un moment donné, disons-le, il y a un enjeu. J'ai pas fini l'histoire de Daguerre en disant quand même que ce qui s'est passé à la fin, cette invention extraordinaire de la photographie, a été tout de suite repéré par l'État, qui a acheté le brevet pour le donner, pour le mettre dans le domaine public. Voilà une belle histoire.
Et c'est dans ce livre, c'est quoi la sérendipité, 80 découvertes dues au hasard qui ont bouleversé le cours de l'histoire. C'est au courrier du livre et puis Insoluble mais vrai, c'est chez Flammarion. Et ça, c'est David Louapre et The Conversation France pour découvrir l'article sur les cuisses de grenouilles. Bon week-end à toutes et à tous. Merci beaucoup.
Merci.